La Torah expliquée. Un regard juif sur la Bible. Une émission proposée par le magazine Le Berger d'Israël.
Bonjour chers auditeurs et soyez les bienvenus dans l'émission La Torah expliquée. Pendant un quart d'heure, Guy Attia, directeur du Berger d'Israël, répond aux questions que Benjamin Wagner, journaliste protestant, se pose sur la Torah.
Bonjour Guy.
Bonjour.
C'est maintenant la troisième fois que nous nous retrouvons pour l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Et je dois dire que c'est un récit extraordinaire et riche, hein, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, notamment sur le plan prophétique. On a vu ça déjà lors de la dernière émission. L'histoire de cette tunique multicolore, la manière dont les frères vont faire passer leur frère pour mort auprès de leur père, toutes ces références midrashiques, comme vous nous l'avez expliqué la dernière fois, qui évoquent le lien entre ce personnage biblique et l'avènement du serviteur souffrant, le Messie Ben Yosef, j'avoue que cela dépasse l'imagination et force l'admiration de Dieu qui avait la maîtrise de tous ces événements. Mais avec tout ça, on n'a pas encore parlé des rêves proprement dit, les fameux rêves de Joseph.
Eh oui, mais bon, on y arrive doucement et en plaçant le décor en quelque sorte de ce récit, on arrive à mieux saisir le cadre prophétique de la vie de Joseph. Ses rêves sont multiples et en fait à plusieurs moments différents. Il y a d'abord ceux de son enfance. Il se donne, d'ailleurs, lui-même ne donne pas lui-même d'explication à ces deux rêves qu'il a faits. Mais on a déjà eu l'occasion d'un peu de souligner que leur interprétation n'est en fait pas très compliquée à comprendre. Et les frères de Joseph n'ont aucune peine d'ailleurs à comprendre leur sens qui les dérange d'ailleurs. Hein. Viendront plus tard deux autres rêves, non pas ceux de Joseph, mais ceux de deux prisonniers qui partagent la même cellule que Joseph en Égypte. Et puis enfin, viendra le fameux rêve du Pharaon, dont l'interprétation par Joseph conduiront Joseph à devenir le premier ministre, en quelque sorte, de l'Égypte.
Alors justement, relisons le premier rêve, ou double rêve de Joseph, alors qu'il est encore dans sa famille. On trouve ce texte dans Genèse 37, au verset 5 et 11.
5 à 11. Alors, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. » Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, Joseph raconte ses songes, mais il n'en donne pas donc lui-même l'interprétation directe, même si c'est assez facile à comprendre. Ce sont finalement d'ailleurs ses frères qui posent les questions les plus évidentes à leur sujet. Le premier concerne avant tout les frères eux-mêmes. L'interprétation du rêve est plus que facile, hein, si je puis dire. Hein. Alors pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, nous savons qu'en effet les frères iront se prosterner devant Joseph, quoiqu'ils ne savaient pas que c'était lui, bien sûr. Et cela arrivera quand Joseph gouvernera l'Égypte, et que les frères iront acheter des provisions auprès de lui pendant la famine. Le second rêve s'inscrit dans un cadre plus élargi, si je puis dire. Il y a le soleil et la lune qui sont visiblement interprétés par Jacob lui-même comme étant le père et la mère de Joseph. Et nous pouvons nous interroger, à juste titre d'ailleurs aussi, comme Jacob, et nous poser la question comment les frères de Joseph, d'un côté, mais aussi Jacob, et surtout Rachel, donc la mère de Joseph, qui est déjà décédée, peuvent-ils se prosterner devant Joseph? Alors bien sûr, quand Jacob descendra en Égypte, bien plus tard, il ne manquera pas de se prosterner avec toute sa famille, devant Joseph, devenu le premier intendant de toute l'Égypte. Alors certains ont avancé que Jacob faisait en fait allusion non à Rachel, qui est donc sa mère qui était décédée, mais à Léa, sa belle-mère. Mais cela, ce n'est qu'une hypothèse. Mais le texte en hébreu a toutefois la mère et non la belle-mère. Et puis par ailleurs, Léa, est décédée en Canaan et ne fait pas partie du voyage avec Jacob. Et elle n'a donc jamais revu le Joseph. Elle pense donc, je pense donc qu'il y a en quelque sorte une allusion prophétique à toute la famille d'Israël, Rachel comprise, en quelque sorte, du moins après la résurrection, qui se prosternera devant le prince Messie.
D'accord. Alors, passons au second rêve qui intervient plus tard. Joseph, suite à une histoire de tromperie avec la femme de Potiphar, se retrouve injustement accusé et jeté en prison, la prison royale. Et au bout d'un certain temps, voilà deux hommes jetés eux aussi en prison, et ce n'est pas n'importe qui.
Oui, en effet, ils sont l'un et l'autre de hauts personnages de la cour du Pharaon. L'un est un échanson, en quelque sorte, et celui qui propose et qui sert le vin au roi. Et puis l'autre est le panetier, le boulanger, hein, qui donne toutes sortes de pain au pharaon. Et comme cela arrivait souvent dans ce genre de régime un peu autocrate, un mot de travers ou tout simplement peut-être une mauvaise humeur du pharaon, et vous finissiez tout simplement en prison, voire peut-être même promptement exécuté. Voilà donc nos deux hommes proches du pharaon jetés en prison. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bon, finalement, ça a relativement peu d'importance. L'essentiel est dans les rêves respectifs de chacun d'eux. Alors, on va lire dans Genèse chapitre 40, à partir du verset 5, le récit de ces rêves. « Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Et Joseph leur dit, « Mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il l'eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit « En voici donc l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. Les trois corbeilles sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. » Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia.
Alors cette fois, ce n'est pas Joseph qui a un rêve, mais ce sont ces deux autres personnages. Finalement, Joseph est celui qui va construire en quelque sorte une réputation, sa réputation sur sa capacité à interpréter les rêves, un don susceptible de le faire sortir de cette prison où il a été placé injustement.
Effectivement, et pourtant la conclusion de ce chapitre ne se termine pas par sa sortie de prison. Quel boulet quand même cette chanson, quand même, comment a-t-il pu oublier à ce point Joseph alors qu'il lui avait donné une explication favorable? Et c'est là que je me permets de rappeler la parole de Joseph qui permet de comprendre autrement tout ce récit. On la trouve, et je l'avais déjà évoqué il y a 15 jours, dans Genèse chapitre 50, tout à la fin de sa vie finalement, chapitre 50, donc versets 19 à 21. Joseph, s'adressant donc à ses frères, il leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Alors, voyons à présent donc ces deux rêves de ces deux hommes. Leurs rêves, en rapport avec leur activité, aboutissent à des fortunes évidemment bien différentes. Tandis que l'un est rétabli dans sa fonction, celui de l'échanson, l'autre est purement et simplement pendu. Alors, il est difficile de donner une signification prophétique à ces deux rêves, mais je ne peux m'empêcher de penser que le fait que l'un s'occupe de pain et l'autre de vin n'est pas sans rappeler que Yeshua a donné un sens à ces deux symboles et que l'allusion au Messie souffrant est ici très présente dans cet épisode. Une indication intéressante ne manquera pas de frapper les linguistes d'ailleurs. Au verset 9, le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit « Dans mon rêve, voici, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait trois sarments et quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. » Mais ici, notez particulièrement ici au verset 11, « La coupe du Pharaon était dans sa main, je pris les raisins et je les pressai dans la coupe du Pharaon. Et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication, les trois sarments sont trois jours. » Alors le terme employé ici au chapitre 40 et au verset 11, et qui est traduit par « presser », le raisin, hein, sous-entendu le raisin, ne devrait pas être traduit ainsi. Et nous devrions avoir le mot « sahat ». S'écrivant en hébreu « samerhet tet » qui signifie « presser ». Or, dans le texte traditionnel que nous avons, « sahat » s'écrit différemment. Il s'écrit avec les lettres « shin het ptet », donc une petite lettre qui change, et qui se prononce exactement de la même manière, mais qui ne signifie pas du tout la même chose. C'est le seul passage dans toute la Torah où ce mot se retrouve pour un usage qui ne lui est pas familier. En effet, ce terme signifie « égorger ». Ce qui est généralement le cas de tous les sacrifices d'animaux. Or ici, il est employé pour égorger en quelque sorte des grappes de raisin dans la coupe du Pharaon. Ce qui a fait dire à certains commentateurs que ce passage a certainement une allusion prophétique au sacrifice du Messie, sa mort et sa résurrection au bout de trois jours. Alors bien sûr, ça peut paraître étrange de trouver ici un mot pris pour un autre finalement. Ils s'écrivent pas de la même manière, ils se prononcent de la même manière, mais ils ne signifient absolument pas la même chose. Et ici, on peut comprendre que l'auteur n'a pas fait une erreur de frappe, hein, ou d'écriture. Ici, c'est une intention que l'on peut comprendre et que la plupart des commentateurs ont saisi comme étant une allusion prophétique.
Eh bien voilà qui nous fera voir les rêves tout à fait autrement. Il nous reste encore un dernier rêve à examiner, c'est celui du Pharaon. Nous verrons ça la prochaine fois, puisque cette émission touche déjà à sa fin. Nous poursuivrons dans 15 jours avec un autre texte de la Torah. Au revoir.
Au revoir.
Merci à vous deux, Guy et Benjamin. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Torah expliquée. En attendant, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet www.lebergerdisrael.org pour retrouver les thèmes développés dans cette émission.
C'était la Torah expliquée. Une émission qui vous a été présentée par le magazine Le Berger d'Israël.